Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Après avoir disséqué la semaine dernière la réalité du terrain, les dynamiques militaires et les illusions des premiers mois du conflit, nous élargissons aujourd'hui le regard, nous passons de l'autopsie du champ de bataille à la table des puissances. Donc avec nous, hein, toujours pour 30 minutes d'analyse dense et sans concession, Alexandre Robert, je rappelle, History Legends, entre autres sur YouTube X, historien, militaire et géopoliticien dont la clairvoyance a souvent tranché avec le narratif dominant depuis 2022. Le thème du jour, Ukraine, le laboratoire d'un nouvel ordre mondial géopolitique d'un conflit qui redessine l'Europe et l'Occident. Eh bien, Alexandre Robert, à nouveau, merci d'être revenu pour cette seconde partie. Hein.
Merci de m'avoir invité.
À nouveau, pour le coup. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, nous allons, et pour les auditeurs aussi, cette fois-ci, parler plus géopolitique, avenir du conflit et les implications pour l'Europe. Donc, focus sur les dimensions internationales, Russie, Occident et perspectives plus larges. Après avoir analysé le terrain dans la première émission, élargissons à la géopolitique. Comment la guerre, Alexandre Robert, en Ukraine s'inscrit-elle dans une rivalité plus large entre grandes puissances, Russie, Chine, États-Unis ?
Ah, c'est une question très complexe. Donc, en fait, on a l'impression que les États-Unis ont tout fait pour pousser l'Ukraine à faire cette guerre avec le soutien de l'Europe. Et maintenant que ça déraille un peu, les Américains sont en train de lâcher prise. Donc on pourrait se dire, bon, les Américains, est-ce que c'était voulu ou est-ce un accident ? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif était d'affaiblir l'Europe, l'Union européenne, et de la pousser dans cette guerre, sachant que les Européens allaient être obligés de continuer à soutenir l'Ukraine, tandis que les Américains sont très loin, et qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient couper le cordon ombilical et juste dire, bon, bah, débrouillez-vous. Parce que c'est exactement la situation à laquelle on fait face en ce moment. Parce qu'on dirait que les Américains, on sait très bien que les Américains, leur ennemi principal, c'est la Chine. Maintenant, Trump est allé en Chine. Il y a, à cause des négociations avec l'Iran, on voit que la Chine est toujours là en arrière-plan. Il n'y a pas eu de confrontation directe entre les États-Unis et la Chine. Mais on voit bien que Trump, en tant que président américain, essaye maintenant de créer une sorte d'alliance autour de la Chine. Mmh. Et le pion central, c'est la Russie. Donc les Américains se disent, peut-être on va devoir s'allier avec les Russes pour faire un coup à la Nixon à l'envers. C'est-à-dire, pour ceux qui ont la référence, en 72, si je ne me trompe pas, les Américains, donc Nixon est allé en Chine, il a serré la main aux Chinois pour couper cette alliance qu'ils avaient avec l'Union soviétique et pour fracturer l'alliance communiste contre les États-Unis. Et les Américains aimeraient bien refaire ce scénario aujourd'hui et de séparer la Russie de Poutine avec la Chine de Xi Jinping. Est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Certains vont dire bien sûr que oui, d'autres bien sûr que non. On ne sait pas. Les Russes essayent d'entretenir des relations avec les Américains. Et en fait, de ce que j'ai lu et compris, la psychologie des Russes. C'est-à-dire que les Russes voient très bien que les Chinois sont un allié distant. C'est-à-dire que ce n'est pas un allié qui va envoyer des troupes, qui va parler d'un soutien inconditionnel à la Russie, mais c'est une alliance en sous-main, discrète, qui leur va. C'est-à-dire que tant que la Russie peut vendre son pétrole et son gaz aux Chinois, et que les Russes peuvent avoir accès au marché mondial via la Chine, ma foi, les Russes sont contents. Mais voilà, la question c'est est-ce que les Russes vont tomber dans le piège américain ? Ça aussi c'est difficile à dire et je pense qu'ils ont appris des leçons, c'est-à-dire qu'eux aussi connaissent le coup de Nixon, se disent oui, très bien, on peut faire une alliance avec les Américains, sachant clairement que les Américains peuvent se retourner de l'autre bord tout de suite après. C'est-à-dire que les Américains peuvent promettre mondes et merveilles à la Russie et du jour au lendemain se dire, eh ben voilà, on a changé d'avis encore une fois. Donc c'est pour ça que la Russie de Poutine reste assez calme et prête au dialogue, mais elle est très ferme aussi dans ses demandes. C'est-à-dire, tant que la guerre en Ukraine, tant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs de guerre, qui est donc le Donbass, ça c'est l'objectif primaire pour la Russie en Ukraine, tant qu'ils n'ont pas le Donbass, il n'y aura aucun cessez-le-feu. C'est juste pas possible. Et les Ukrainiens le disent très bien, ils disent « Vous pouvez prendre le Donbass, mais on ne va pas vous le donner. Ça va être par les armes. » Donc voilà, les Américains avaient proposé certains accords de paix où les Ukrainiens allaient donner comme ça, gratuitement, comme on peut dire, le Donbass. Mais c'est irréaliste, parce que si Zelensky fait ça, il risque de ne pas survivre l'année. Donc, parce qu'il y a des éléments extrémistes en Ukraine qui sont jusqu'au boutiste.
Donc, ouais, pour vous, il ne passera pas l'année.
N'importe quel président ukrainien ou dirigeant qui va signer une paix défavorable à ce point-là, ouais. Surtout que l'armée ukrainienne n'a pas été totalement défaite.
Ouais.
Donc, il faudrait vraiment, je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait, mais en théorie, c'est seulement le jour où l'armée ukrainienne est détruite en déroute totale, que là, on pourrait dire, oui, il faut arrêter pour éviter le pire. Mais on ne peut pas arrêter à ce moment-là, maintenant que les Ukrainiens disent, bon, vous voyez, les Russes grignotent du terrain.
Mmh.
Voilà.
Et Alexandre, le rôle de l'OTAN et des livraisons d'armes, a-t-on prolongé le conflit ou évité une victoire rapide russe? Et quelle est votre vue, va-t-on dire, sur la stratégie occidentale depuis 2022?
Eh bien, c'est sûr que les livraisons d'armes occidentales ont aidé l'Ukraine, surtout l'artillerie. À un moment du conflit, il y avait les chars, maintenant c'est l'aviation. Donc c'est sûr que cette aide, les Ukrainiens apprécient énormément cette aide. Maintenant, le problème, c'est qu'une grande partie de cet équipement a montré ses faiblesses sur le champ de bataille. Une grande partie, par exemple, de l'équipement allemand ne marche pas dans la boue. Je vais vous dire une anecdote. Les Allemands, ils ont leur PZH 2000. C'est un canon automoteur blindé. Eh bien, je pensais que c'était des blagues, mais il s'avère que c'est la réalité. Les artilleurs à l'intérieur doivent être en chaussettes, en chaussons.
D'accord.
Ils doivent porter des chaussons à l'intérieur pour éviter de ramener de la boue de l'extérieur. D'accord. Parce que si la boue rentre, toute la machine va s'embourber. Toute la mécanique va arrêter. Vous pouvez, genre une machine de plusieurs millions qui est supposée protéger contre des obus. Et c'est la boue qui l'arrête ça. Et donc, on voit vraiment des soldats en chaussons, comme vous en avez à la maison. C'est assez spécial. Et donc, voilà. Et pareil, les canons sont faits pour tirer un certain nombre de coups, une vingtaine peut-être. Et dès qu'on dépasse, le canon chauffe et se casse. Et après, l'Allemagne n'a pas pensé à des pièces de rechange pour ces canons-là. Donc, l'Ukraine fait face à une vraie problématique avec l'armement occidental. Après, c'était un bon laboratoire. Je pense que pour beaucoup d'armées occidentales, ça a été un bon moyen de tester une partie de leur équipement.
Mmh.
Et la plupart de cet équipement, c'est pas vraiment ça fait pas des merveilles. Il y a Starlink qui aide bien, mais ça, c'est plus niveau technologique, on va dire communication. En armement militaire, les Ukrainiens sont en train de faire leurs propres pièces d'artillerie, leurs propres véhicules, leurs propres drones, et ils s'en sortent assez bien. Et il y avait une deuxième partie à la question.
Oui. Je vous demandais aussi quelle était votre vue sur la stratégie occidentale depuis 2022.
Et en a-t-il y a-t-il aussi une stratégie? Je pense que la stratégie, était basée sur un effondrement de l'armée russe. En fait, la stratégie occidentale marchait jusqu'au moment où, à l'automne 2022, jusqu'au moment où on pensait que les Russes allaient s'effondrer d'un moment à l'autre. Bon, ça s'est pas fait. On disait bon, la contre-offensive d'été de 2023, c'est là, avec la bonne doctrine de l'OTAN, ils vont percer. Les Bradley, on leur a dit aux équipages des chars, des canons d'attaque, la M2 Bradley, que les Russes allaient les voir et qu'ils allaient s'enfuir.
Mm-hmm.
Et ça s'est pas fait. Donc, à partir de ce moment-là, la doctrine de l'OTAN, il n'y en a pas vraiment. Maintenant, c'est juste d'affaiblir la Russie le plus possible en attendant un éventuel effondrement, on ne sait pas, économique, politique, c'est bon, beaucoup d'espérance. Mais ce que je trouve marrant, c'est que d'un côté, dans les médias occidentaux, on dit oui, la Russie, l'armée russe est faible, l'armée russe est affaiblie, ils n'arrivent même pas à battre l'Ukraine. Mais en même temps, on va nous dire, oui, l'armée russe, elle est énorme, elle va envahir toute l'Europe. D'abord les Pays-Bas, la Finlande, après la Pologne, ils vont pas s'arrêter. Mais je veux dire, on est où là? Est-ce que l'armée russe est faible? Est-ce qu'elle est forte? Là, on dirait Schrödinger. C'est-à-dire l'armée russe est puissante et faible en même temps. Ah, je comprends pas trop. J'ai posé la question à certaines personnes, mais dès que je pose la question, c'est erreur 404. Ça bug et
Tout est flou, voire
ça devient
de voir,
flou.
il ne répondra absolument pas. C'est ça.
Donc voilà, je sais pas. J'ai l'impression des fois, c'est peut-être un prétexte de dire oui, on va militariser l'Europe contre la Russie. Est-ce que ça va être contre la Russie? Je sais pas.
Alexandre Robert, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Comment évaluez-vous, Alexandre Robert, quant à la Russie, sa capacité économique et industrielle à soutenir une guerre longue? Et Poutine a-t-il transformé son pays en économie de guerre efficace comme pendant la Seconde Guerre mondiale?
Eh bien, le domaine économique militaire, ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection. J'analyse plutôt les événements sur le front, mais on peut quand même en tirer de certaines conclusions. C'est-à-dire que la Russie, c'est sûr que ça aide énormément le PIB. Une partie de plus en plus importante de la population fait partie de cet effort de guerre industrielle. Mmh. Est-ce qu'on en est au même niveau que la Deuxième Guerre mondiale? Non, loin de là. C'est, comme on en avait parlé pendant la dernière émission, on s'attend à ce que l'armée russe d'aujourd'hui, que la Russie d'aujourd'hui, est comme l'Union soviétique de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est pas du tout le même pays, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, c'est difficile à comparer. Donc, c'est comme si aujourd'hui, je sais pas, on allait comparer la France d'aujourd'hui à celle du temps des rois. On s'est révolu. Par contre, il y a des choses qui restent. C'est-à-dire que la Russie, présentement, est en train de moderniser son armée, mais en attendant de créer tout cet équipement moderne, on fait sortir les vieux stocks. Mmh. Donc, les vieux chars qui ont été créés à la chaîne pendant les années 60, 70 sont modernisés. Et on se dit, bon, c'est vrai que c'est pas le top nouveau et tout, mais bon, quand on voit que les chars européens qui coûtent des millions d'euros se font détruire par quelques drones ou par des mines, pourquoi pas utiliser un vieux char qu'on va pouvoir lancer comme ça, et tant pis s'il se fait détruire. Donc les Russes sont en train d'utiliser surtout leur vieux stock de l'Union soviétique, donc ouais, d'un côté ils sont contents que l'Union soviétique a fait ça, et pareil pour leurs bombes, donc ils ont des bombes planantes, ils avaient des bombes de 250, 500 kilos, même 1000, ça va de 250 à 3000 kilos. Et ça, 3000 kilos, ça te détruit un HLM, comment il y en a en Russie, c'est-à-dire 3-4 niveaux, 3-4 étages, ça te détruit une barre d'immeuble. Donc voilà, ils ont beaucoup de bombes, ils utilisent l'aviation en lançant ces bombes-là qui ont été créées pendant l'Union soviétique, mais ils les ont modernisées avec une sorte de machine qui plane et qui peut être lancée et atteindre sa cible par GPS. Pardon pour le côté technique. mais voilà, donc...
On comprend très bien.
Mais il y a toujours, voilà, je pense que la Russie, par contre, pourrait entrer dans une économie de guerre, et je pense qu'elle le fait petit à petit. Au lieu de faire... Le centre de gravité de la Russie, c'est toujours le soutien à la guerre. Donc il faut toujours faire une étape à la fois, au lieu de faire des changements drastiques. Comme 2022, ça a été assez drastique, la mobilisation de l'automne 2022. D'un côté, on leur dit « oui, tout va bien », et d'un coup, mobilisation. Là, les Russes se sont dit « en fait, ça va pas si bien ». Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, la Russie est en train de créer plus de drones, mais c'est difficile. Hein, donc, la Russie, c'est quand même une boîte noire. C'est difficile d'avoir des infos claires sur ce qui se passe comparé aux Ukrainiens qui disent tout. Et je pense que c'est un peu ça une des raisons du biais idéologique dans les médias, c'est qu'on d'un côté il y a un camp qui est assez conservateur avec l'information qui sort, et de l'autre on a littéralement chaque brigade, chaque unité qui a toute une propagande en elle-même. Il y a le gouvernement, ils sont vraiment forts, c'est leur machine médiatique, elle est forte, et je dirais même des fois trop forte, parce que les Ukrainiens auront tendance à croire leur propre propagande. Et c'est un peu ce qu'on voit en Occident aussi, c'est-à-dire oui, tout va bien, voilà, on gagne 30 000 Russes tués tous les mois. Genre, très bien, mais si c'est le cas, pourquoi les Russes avancent toujours? Est-ce qu'ils arrivent à à faire revivre les morts. Est-ce que les morts reviennent sur le champ de bataille? On ne comprend pas.
Effectivement.
Donc voilà, si c'était vraiment une hécatombe du côté russe, les Ukrainiens seraient déjà en Crimée.
Quant à l'Ukraine post-conflit, au-delà des batailles, quels sont, selon vous, les défis démographiques, politiques et de reconstruction qui attendent Kiev, comme on dit, hein, quelle que soit l'issue militaire?
C'est un sujet sensible, parce qu'une grande partie de la population ukrainienne s'est expatriée, soit en Europe, soit en Amérique du Nord, ou dans le monde entier. Donc maintenant, l'Ukraine a perdu... on pourrait dire un tiers de sa population. Beaucoup de femmes, d'enfants, beaucoup d'hommes aussi. Normalement, les hommes n'ont pas le droit de quitter le pays sous peine à cause de la loi martiale.
Ouais,
mais bon, il y a de la corruption. Les hommes arrivent à passer la frontière en parlant quelques minutes avec les gardes frontières. Et voilà, ils sont en Roumanie, ils sont en Pologne. Et maintenant, le problème, c'est qu'on parle, certains disent en Ukraine, oui, il va falloir faire venir des travailleurs indiens du sous-continent indien pour reconstruire le pays. Peut-être ils vont faire face à appeler à l'immigration, tout ça. Et bien sûr, certains éléments en Ukraine se disent, on s'est pas battu pour ça. À quoi ça sert de se battre pour en arriver là?
Bien sûr.
Donc c'est très difficile, la Russie aussi d'ailleurs, elle fait face à un problème de main-d'œuvre. Donc là, beaucoup de gens des pays, il y a des Africains, il y a des Indiens, on a vu même, il y a des Nord-Coréens qui vont maintenant travailler en Russie. On entend souvent parler d'Africains ou d'Indiens et tout ça qui servent dans l'armée russe. Mais selon ma recherche, je ne pense pas que c'est très efficace parce que ces hommes ne parlent pas russe ou très peu parlent russe. Donc, c'est très difficile de les intégrer dans des unités de combat lorsqu'ils ne comprennent même pas les ordres.
Mmh.
Et en Russie, c'est pas un pays où il y a une forte proportion des gens dans l'armée qui parlent anglais. Contrairement aux Ukrainiens qui ont des unités de langue, c'est-à-dire il y a des unités hispaniques avec les... avec lusophones aussi, avec des Portugais, des Brésiliens. Il y a des unités anglaises, il y a des unités en français. Donc, voilà, je pense que les deux pays font face à une crise démographique et ça va... La guerre, c'est sûr que beaucoup d'hommes vont manquer à l'appel. Beaucoup d'hommes vont manquer à l'appel pour la reconstruction du pays. Bien sûr, c'est l'Ukraine qui va payer une grande partie pour ses villes détruites, mais il faut aussi dire que... ce sont les Russes qui vont avoir les villes détruites.
Ah, voilà.
Donc, comment les Russes vont faire pour reconstruire ces villes-là? Parce que bon, les villes ukrainiennes, Kiev et tout ça... Oui, il y a de la destruction, mais de ce qu'on m'a dit, maintenant, il y a des barres d'immeubles avec des condos, des tours de luxe. Donc, ils ont utilisé les vieux quartiers détruits pour faire des tours maintenant plus modernes. Donc, voilà, certaines personnes se sont enrichies avec cette guerre. La ville s'est modernisée, apparemment. J'ai pas été. Je vous raconte juste ce qu'on m'a dit. Mais ça va être un problème pour les Russes qui, eux, prennent des villes qui sont en ruine. Vidées d'habitants, vidées de tout. Donc ça va être très intéressant de voir comment ils vont faire.
Et par rapport au conflit connexe, vous avez traité du Mali, du Venezuela, de l'Iran. Ce conflit ukrainien détourne-t-il l'attention et les ressources d'autres théâtres, Sahel, Indo-Pacifique, qui concernent directement la France?
La France, alors... Je pense qu'on pourrait parler d'abord de l'impact de tous ces conflits sur la Russie. Parce qu'en fait, on voit très bien que certains diraient du côté russe, oui, la Russie n'a pas mis le paquet encore en Ukraine, il y a des réserves. Moi, je suis contre cet avis-là. Je pense que les Russes sont à fond dans la guerre en Ukraine. Et donc, à cause de ça, ils n'ont pas assez de ressources pour maintenir leur position géostratégique dans le monde entier.
Ouais.
Par exemple, le Venezuela est tombé. Ils n'ont rien fait. Pareil en Syrie, donc Bachar el-Assad est tombé, et on voit petit à petit les alliés de la Russie qui sont en train de tomber un par un. Donc là, maintenant, ce sont les pays du Sahel, donc il y a toute une mouvance des insurgés au Mali, au Burkina, donc des groupes djihadistes qui sont en train de prendre de l'ampleur, et les alliés de Moscou dans la région font face à une situation très, très difficile. Donc on parle de djihadisme, mais c'est aussi très ethnique, c'est-à-dire que c'est... En fait, ce sont les vieilles frontières coloniales qui s'effritent et qui s'effondrent. Mais le gouvernement malien veut garder les vieilles frontières tout en disant que oui, la France est la cause des problèmes, mais ils veulent garder ces mêmes frontières problématiques. Donc, va falloir expliquer, surtout qu'ils pourraient très bien parler avec leurs voisins, de dire voilà, on fait des arrangements territoriaux et tout ça. Aucun compromis. Et la Russie en Afrique, ben, son rôle est très simple. Donc, avec Wagner et puis maintenant avec l'Afrika Korps, leur positionnement est très simple. C'est-à-dire que c'est protéger des mines d'or. En gros, sécuriser des mines d'or, sécuriser les lignes logistiques de ces mines d'or jusqu'aux aéroports, prendre l'or du pays et le ramener en Russie. Donc, c'est comme ça que la Russie aussi finance son effort de guerre. Mais pour faire en sorte que tout ça fonctionne, il faut protéger les pays, donc les gouvernements qui permettent à la Russie de prendre cet or-là. Donc c'est pour ça que les Russes vont aussi tout faire pour protéger les gouvernements, comme au Mali, au Burkina. Et pour ces présidents-là, c'est aussi une sécurité, puisque ça évite des coups d'État, en sachant que les Russes ne vont pas prendre contrôle du Mali ou du Burkina Faso, tandis que la garde présidentielle pourrait remplacer un général par un autre. Donc, c'est pour les Russes, ça devient difficile de maintenir tout leur échiquier. Et en ce qui concerne la France, la France s'est recentrée aussi sur l'Europe. Donc, en abandonnant les bases en Afrique, qui devaient être faites de toute façon avant l'opération Serval et Barkhane, la France devait de toute façon partir d'Afrique. On les a rappelés. Bon. Mais je pense que c'est une bonne chose, parce que ces pays-là sont indépendants, ils veulent avoir la souveraineté totale, eh bien, soit.
Et vous avez, il reste peu de temps, je vais essayer. Vous avez par exemple évoqué aussi le rôle des aumôniers militaires.
Oui.
Comment la religion et l'identité jouent-elles, il me reste deux, trois questions, un rôle dans la motivation des troupes des deux côtés?
Eh bien, on voit que le côté religieux est bien plus présent chez les Russes, donc il y a le côté orthodoxe de guerre sainte, presque, du côté russe est présent. Par contre, les aumôniers, donc il y a beaucoup d'aumôniers, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il y a, vu que les gens ne sont pas si religieux en Russie, il manque d'aumôniers. Donc ce sont souvent les mêmes qui vont dans leur église et qui retournent au front. Donc c'est pas comme pendant la Première Guerre mondiale où il y a des aumôniers attitrés. Ils font des allers-retours. Et ils disent qu'ils font face à une armée de païens, c'est-à-dire que beaucoup sont des gens qui n'y croient pas vraiment, qui ont grandi en Union soviétique sans religion, mais c'est la peur et la guerre qui les a rendus religieux. Donc eux, ils font un travail d'évangélisation sur le front, en espérant que ces soldats, une fois qu'ils rentrent chez eux, continuent cet effort. En Ukraine, il n'y a pas cet aspect religieux, c'est plutôt national indépendant, c'est-à-dire que c'est plutôt l'Ukraine en tant que nation qui est mise en avant. Et les unités, on va dire, de certains secteurs privilégient une autre doctrine, plus de mythologie nordique.
Et pour la France, Emmanuel Macron parle d'envoyer des troupes ou de ne pas être lâche. Une implication plus directe de l'Europe serait-elle réaliste ou suicidaire militairement et politiquement ?
Vous savez, ça me rappelle un peu les guerres de Napoléon III, c'est-à-dire de faire des guerres pour ne pas paraître lâche. Oui, c'est bien, mais beaucoup de gens meurent. Pour au final, Napoléon III a fait la guerre au Mexique, en Italie, la guerre de Crimée. Beaucoup de gens sont morts en Crimée. Pourquoi ? Qu'est-ce que la France a gagné de la guerre en Crimée ? On ne sait pas trop. Mexique, pareil, on ne sait pas trop. Donc beaucoup d'aventures, d'expéditions à droite à gauche, pour au final, ne pas parler de l'ennemi en face, qui était la Prusse. Et voilà, la France de Napoléon III a fait toutes ces belles campagnes. Beaucoup de ponts, je vois, à Paris, portent le nom de ces campagnes.
Effectivement.
Mais voilà, tout ça pour manquer le coup face à la Prusse, qui était l'ennemi principal. Donc tout ce qu'il faut savoir en tout ça, c'est est-ce que la Russie est vraiment l'ennemi principal de la France ? Et qu'est-ce que la France pourrait en tirer ? C'est ça la question. Et je pense que cette question, c'est la plus importante et personne n'est capable d'y répondre. Donc je comprends des Polonais qui pourraient s'impliquer, parce qu'ils sont juste à côté de la Biélorussie, de la Russie et tout ça. Des Pays-Baltes, je comprends. La Finlande, ça devient un peu plus complexe pour la France.
Et pour terminer, en une minute, si vous pouvez, quel message ou quelle mise en garde adresseriez-vous aux auditeurs français sur ce conflit qui redessine notre continent?
Eh bien, je dirais aux auditeurs de chercher plus loin, c'est-à-dire d'utiliser un esprit critique et d'essayer de regarder les chaînes alternatives, Telegram, X, pour voir vraiment ce que les deux camps disent, et vous allez faire votre propre opinion de la situation. Regardez, il y a des cartes qui existent. Deep State UA est une carte pro-ukrainienne, mais vous n'avez qu'à voir l'avancée du front, c'est vraiment dans une direction. Ces cartes sont en retard de plusieurs mois. Des fois, il y a, par exemple, cette carte-là qui est pro-ukrainienne, elle a eu 6 mois de retard pour la chute de Pokrovsk. Ils viennent d'annoncer la chute de la ville, tandis que ça fait 6 mois. Mais bon, il faut les comprendre, ils ont été menacés d'être envoyés au front s'ils n'écoutaient pas les ordres. Donc, voilà. Et voilà, je vous dis juste, faites vos propres recherches, regardez les cartes, regardez l'avancée du front et vous aurez toutes les réponses avec ça.
Et écoutez aussi Alexandre Robert, History
Legends.
Ah oui,
bon.
Bah oui. Alexandre, bah, écoutez, merci infiniment pour cette analyse dense, lucide et courageuse. Hein. Donc, vous nous avez permis de sortir des slogans et des cartes postales médiatiques pour voir le vrai visage de ce conflit. Un laboratoire impitoyable où se joue non seulement l'avenir de l'Ukraine et de la Russie, mais celui de l'ordre mondial et de l'Europe elle-même. Donc, quels que soient les scénarios, négociations, gel du conflit ou victoire décisive, une chose est certaine, ce choc des puissances redessine profondément notre continent. Il révèle la fragilité d'une Europe qui a cru pouvoir se passer de puissance, d'histoire et de réalisme géopolitique. Donc Alexandre, donc je répète, History Legends sur YouTube, X, et vous avez d'autres aussi, Insta aussi
hein? Instagram, oui, History Legends, pareil, deux maintenant, parce que mon premier compte a été éliminé. Vous pouvez me trouver sur YouTube, sur X et sur Instagram principalement, oui. TikTok aussi,
donc merci encore d'avoir été avec nous. Et puis, j'espère à très vite, parce que vous êtes quand même, je précise quand même que vous êtes venu quand même
de très loin. Oui.
De très loin. Chers auditeurs, je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition de RC Mag. Restez vigilants, restez français et bonne semaine.